Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de l'avant-dernière de Chut, on écoute la télé de cette saison 2024-2025, nous allons consacrer une large partie de cette émission à la sortie du film Valensole 1965 qui sort mercredi dans les salles. À cette occasion, le réalisateur Dominique Filol sera avec nous, accompagné de l'actrice Vaina Giocante, Mathias Ancache et Sacha Grava qui seront tous avec nous pour parler du film. On va reparler de Tout pour la lumière également, la série de TF1 avec Charlie Loiselier et Yara Chari qui seront avec nous. Catherine Davinsenka va partir à l'assaut du Fort Boyard samedi prochain sur France 2. À cette occasion, eh bien, elle sera avec nous et nous dira tout également sur son avenir depuis son départ de la série Ici tout commence. C'est le grand retour demain soir de la série OPJ avec Monsieur Antoine Stipp alias Gaspard. Il sera avec nous pour en parler et l'avenir de son personnage évidemment aussi. Elle est à l'affiche ce soir de la série Nouveau Jour sur M6 mais également de Camping Paradis à 21h10 sur TF1 dans le rôle de Stéphanie. Juliette Chen sera également notre invitée exceptionnelle. Et en exclu podcast cette semaine, nous aurons le plaisir de recevoir deux des héros de votre série Demain nous appartient, Elisa et Zéline, et Sacha Birdie qui ont monté un collectif ensemble musical. Ils vont nous faire découvrir d'ailleurs tout nouveau titre qui est sorti vendredi dans les bacs. Vous l'avez compris, on va vraiment pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors c'est parti, voici tout de suite notre coup de cœur ciné cette semaine.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré à Valensole 1965 qui sort mercredi dans les salles. Et pour fêter cette sortie, eh bien, on a toute une partie de l'équipe aujourd'hui qui est avec nous. On va commencer par le réalisateur Dominique Filol. Bonjour Dominique.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Et on a une jolie partie du casting justement. On a Vaina Giocante qui est avec nous. Bonjour Vaina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a le héros de cette histoire aussi, Mathias Ancache qui est avec nous. Bonjour Mathias.
Bonjour Alain.
Et Sacha Grava qui est avec nous, qui joue Anne-Claude, la fille justement de cette famille. Bonjour Sacha.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors Dominique, la première question qui me vient à l'idée, parce que c'est tiré d'une histoire vraie, c'est l'histoire d'un agriculteur, enfin d'un cultivateur de lavande pour être précis, en 1965, qui découvre des choses extrêmement bizarres dans son champ de lavande. Et évidemment, en se confiant à la personne qu'il fallait peut-être pas, puisqu'il allait le répéter très très vite, tout le monde va vite en tout cas s'emparer de cette histoire et Valensole va devenir le théâtre de la presse, de personnes scientifiques qui vont venir pour essayer de voir si effectivement ces dires sont vrai ou pas. C'est toute cette histoire qui est mise en lumière, puisque c'est une histoire vraie. Alors Dominique, qu'est-ce qui t'a donné envie, en tout cas, de mettre cette histoire en lumière?
Il y a pas mal de choses qui m'ont donné envie de faire ce film. D'abord, j'avais fait un documentaire qui s'appelait « OVNI, une affaire d'État ». Et c'est à cette occasion que j'ai pris connaissance de l'affaire de Valensole, où on s'est déplacé avec l'équipe à Valensole. Et là, j'ai été vraiment touché par les personnes que j'avais rencontrées, qui ont connu Maurice Mas, qui ont connu aussi cette époque, qui se souviennent de ce qui s'est passé au village. Et là, j'ai vraiment compris que c'est une histoire qui avait impacté évidemment Maurice Mas, mais aussi sa famille et tout le village. Et j'ai eu envie d'en faire une histoire parce qu'en même temps, il y avait rien de... Je veux dire, la plupart des films aujourd'hui adaptés d'histoires vraies sont souvent des faits divers sanglants et tragiques. Alors même s'il y a une dimension tragique quand même dans l'histoire de Valensole, ça reste une belle histoire. Et j'avais envie, j'ai toujours eu à cœur de faire des films qui racontent des belles histoires.
Ouais, parce que c'est toujours inexpliqué ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a encore des personnes vivantes justement? Est-ce que par exemple la personne que joue Sacha, Anne-Claude, est encore vivante?
Tout à fait, Marie-Claude est encore en vie, donc c'est la fille de Maurice Mas. Maurice, lui, est décédé en 2004, et ils ont eu aussi des petits-enfants, donc Léonard et Simon, qui aujourd'hui, on le voit même, sont régulièrement sollicités pour faire des interviews, toujours sur cette histoire, finalement, comme Maurice l'a vécu de manière très intense dans les années 60.
Il y a encore des mémoires vivantes, en tout cas, de cette histoire. C'est ça qui est très beau, c'est qu'ils puissent voir aujourd'hui le résultat et ce film que tu vas nous montrer sur les écrans, en tout cas, mercredi. Mathias, tu t'empares de Maurice, avec un petit accent marseillais, évidemment, qui n'est pas sans rappeler un peu Pagnol, les lavandes, les cigales, la Provence dans tous ses états. Et franchement, ce Maurice est tellement attachant qu'on s'imagine vivre ça en même temps que lui. Et les images sont absolument superbes et saisissantes, il faut quand même le dire. Tu t'es bien emparé du personnage. Comment t'as fait ?
Alors, comment j'ai fait ? Eh ben, il se trouve que je tournais depuis 3 mois dans la région, donc je m'étais un petit peu imprégné sur un autre projet, sur une série qui s'appelait Ouija. Et donc j'ai commencé un petit peu à travailler mon accent. Et puis après, j'ai rencontré la famille de Maurice. Et oui, ça me semblait évident qu'il faille trouver un accent. J'ai modifié ma voix aussi un petit peu. J'ai descendu d'une octave, voilà, pour éviter justement que ça fasse un côté trop chantant et trop film de Pagnol et compagnie. Et puis voilà, je trouve ça amenait un peu d'intériorité au personnage. Donc voilà, j'ai travaillé comme je travaille d'habitude, voilà, en lisant beaucoup le scénario, en travaillant mes textes, puis en essayant de m'imprimer cette histoire absolument folle que moi j'ai essayé de jouer comme une rencontre mystique, en fait. Voilà, j'imagine que c'est le même bouleversement qui doit arriver à quelqu'un qui fait une rencontre mystique, qui va l'amener à éventuellement donner sa vie à une religion ou autre.
En tout cas, ce personnage, effectivement, on est en empathie directement avec lui. Et une empathie que partage Jeannette, sa femme, qui va être d'un soutien sans faille. Quoique, des fois, elle va quand même douter de ses propos. C'est pas facile quand son mari rentre et raconte ce qu'il a vu, raconte ce qui s'est passé. Et on peut imaginer son épouse un peu perplexe et un peu désabusée devant ses propos de son mari.
Ouais, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce scénario, c'est que c'est un film d'une histoire extraordinaire qui arrive à des gens, on va dire, pas ordinaires, mais qui sont, voilà, de la terre, quoi. C'est des gens pragmatiques, c'est des gens qui sont pleins de bon sens. Et en fait, c'est comment cette histoire extraordinaire et improbable va les affecter personnellement dans leur vie de famille, dans leur vie de couple, dans leur vie de village. Et c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant dans la façon dont cette histoire a été traitée, avec beaucoup d'humanité. Et Jeannette, oui, alors ça se passe en 65, hein, donc c'est quand même aussi une femme de son époque. Il y a quand même, c'est inscrit dans cette époque-là. Et en même temps, cette femme qui est le soutien, le pilier familial, malgré tout, et qui va, je pense, aider son mari à traverser cette épreuve, parce que je pense que ça a été vécu comme une épreuve et comme un bouleversement interne et externe très profond.
Il va même s'exercer un peu en tant que rempart vis-à-vis de tous ceux qui vont essayer, en tout cas, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé à travers le personnage de Maurice, qui est déjà fragilisé par tout ça.
Mais ça, je pense que souvent, les femmes sont des remparts. Je pense que de manière générale, une femme qui aime son homme peut être à la fois voilà, une protectrice et aussi, comme je disais, un pilier, c'est-à-dire un roc sur lequel on peut compter. Et en même temps, elle le dit aussi, elle a aussi elle-même besoin d'y voir plus clair. Elle a besoin de savoir si, voilà, si son homme n'est pas en train de devenir fou et puis de protéger ses enfants aussi, parce que il y a cette dimension aussi mère de famille, un peu louve, un peu... Donc ça affecte vraiment tout le monde. Moi, j'ai pas eu la chance de rencontrer... Enfin, j'ai rencontré les petits-enfants après, mais pas pendant la préparation. Et je vois bien que encore aujourd'hui, c'est une histoire qui a marqué tout le monde et pas forcément de manière la plus facile, la plus évidente à gérer, quoi. Donc voilà, c'était un très, très beau personnage, à la fois dans une... Jeannette dans une forme de simplicité, de douceur aussi, oui. Parce que la douceur, c'est important dans ce monde.
Oui, on la sent extrêmement calme justement, sauf à certains moments, mais on la sent extrêmement calme. Sacha, est-ce que toi t'as pu rencontrer justement la personne que t'incarnes ou justement pas du tout?
Pas encore, je la rencontre là dans quelques...
Pour la sortie du film. Aïe aïe aïe.
Et ouais, je me réjouis de la voir et de pouvoir aussi parler de son expérience si elle veut bien et de comment elle a vécu la chose elle.
Oui, parce que le personnage, alors toi tu joues l'aîné de la famille, hein, des enfants, de Maurice et Jeannette. Et donc toi t'es un peu dans une période de vouloir t'émanciper, de vouloir aller à la ville, faire des études, etc. Pas forcément marcher sur les traces de tes parents avec le dur labeur de la terre, etc. Toi t'as d'autres ambitions dans ce personnage.
Oui, et je pense ce qui est assez intéressant, c'est justement ce moment où... À cet âge-là, bah, tu deviens aussi une femme et t'as aussi envie de te détacher de tes parents. Et qu'est-ce qui arrive quand il se passe ça? Comment tu vis la chose? Parce que t'as envie d'être là pour ton père, pour ta famille, et en même temps, t'as envie de vivre d'autres choses. Donc, ouais, j'ai trouvé ça touchant de pouvoir vivre ça à cet âge-là, et d'essayer de comprendre aussi comment elle l'avait vécu.
Et puis c'est là qu'en fait, en voulant t'émanciper, ben le bloc familial va se resserrer plus au contraire, grâce à, ou à cause de cette histoire, on sait pas, mais en tout cas c'est ce que vous allez voir. Ça s'appelle Valensole 1965, ça sort mercredi dans les salles, on va écouter la bande-annonce et on revient juste après. L'équipe du film est avec nous aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé, à tout de suite.
Jeannette, il faut qu'on parle à Maurice.
Mais pourquoi, il s'est passé quelque chose? Maurice, tu me fais peur là.
Le 1er juillet 65, à 2 km au nord-ouest de Valensole, Basses-Alpes, M. Maurice Mass, cultivateur, déclare avoir vu un objet volant non identifié de la grosseur d'une dauphine posé dans son champ.
Franchement, vous y croyez, vous, à cette histoire?
Mon père, c'est pas un menteur.
Pourquoi les militaires, ils sont venus?
Pour des histoires de grands.
Je t'avais dit de rien dire.
Allez, ne bougez pas, la suite de notre spécial Valensole 1965, c'est dans un instant, juste après une petite pause.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. le coup de cœur ciné de la semaine.
Et voilà donc Valençol 1965, le film sort dans les salles ce mercredi. Vous aurez certainement, j'en suis sûr en tout cas, un cinéma près de chez vous. Plus de 150 cinémas vont vous le proposer en tout cas partout en France. Mercredi, Sacha Grava, Mathias Vancache, Vaina Giocante et Dominique Filol sont avec nous. Dominique, j'imagine l'émotion que c'est pour toi d'être à 2 jours de la sortie du film et de délivrer cette histoire qui peut être méconnue, mais moi je la connaissais pas. Elle va être, on va dire, disponible voilà, au grand public qui va vouloir en tout cas s'en emparer.
Je suis déjà très très heureux que le film sorte au cinéma. Ça a été une aventure, une très belle aventure avec des moments aussi compliqués. Et oui, maintenant je souhaite le partager avec le plus grand nombre et on verra bien ce que le public vit à travers l'histoire de Maurice. Et j'espère que les gens seront touchés par le film.
C'est quoi les premiers retours que tu as eus justement, Dominique ? Par les avant-premières que tu as pu vivre jusque-là ?
Écoute, les gens ont été touchés et ont trouvé que c'était un très beau film et pour l'instant, ça me va très bien.
C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ça veut dire que le pari, quand même, est déjà réussi avant même sa sortie. Mathias, est-ce qu'il y a une scène particulière qui t'a marqué ? Parce que bah, quand on a joué beaucoup d'émotions qui doivent passer dans le regard, dans la gestuelle, dans le physique, finalement, comment on s'approprie tout ça et comment on vit tout ça ?
Oui, alors il y a la première scène, Dominique a été très gentil de me faire attaquer avec une scène dans les lavandes où vraiment Maurice est complètement désorienté. J'avais l'impression que ça allait être très dur et en fait ça a été une manière de me lancer dans le film. C'est une scène où il rampe dans les lavandes, il est vraiment... il est au bout de sa vie et ça a été... ça a été une manière de rentrer dans le bain du film comme ça, de manière un petit peu violente et qui m'a permis ensuite après de pouvoir poser, calmer les choses. Et il y a une deuxième scène aussi qui est la scène du lac où j'ai failli crever, hein. non, c'est, on est dans
l'eau était froide?
L'eau était pas froide, mais je suis resté longtemps et à l'ombre. Oui, j'ai dû rester 45 minutes dans l'eau. Donc en flottaison, voilà, avec un drone qui me survolait. Et effectivement, Dominique, avoue.
Est-ce que tu lui en veux aujourd'hui qu'il en ait gardé que 30 secondes à peine ?
Non, absolument pas, parce que les 30 secondes sont magnifiques. Mais Dominique a dit, puisque tout le monde était l'équipe était sur la rive et il y avait un bateau d'assistance pour moi, et je suis remonté sur le bateau et Dominique a dit, on en refait une. Et le sauveteur qui était à côté lui a dit, non, on n'en refait pas, ou alors il faut qu'il se réchauffe pendant une petite heure avant, et on n'avait pas le temps après avec la lumière, donc on a pu garder ces 30 secondes là, mais effectivement, non, c'était très drôle. C'était magnifique, le lac d'Esparron, il est absolument sublime. Et c'était très très beau, mais c'est vrai que sur la fin, c'était un petit peu frais.
T'as donné de ton corps. Vaina, il y a une scène particulière, parce que même si on a senti effectivement cette femme, des fois s'éloigner un petit peu de cette vérité que lui disait son mari, pas toujours à le croire, difficile, parce que de toute façon c'est difficile quand quelqu'un dit ça, mais à un moment donné, il y a une scène qui crée cette alchimie où on n'a plus aucun doute sur le fait que Jeannette croit son mari. Cette scène devant le poste de police où là, elle lui met clairement les points sur les i quand même quelque part. Et là, elle s'affirme. Est-ce que cette scène-là t'a marqué ou est-ce qu'il y en a eu plutôt une autre ?
Ouais, cette scène, c'est une scène de vérité, c'est une scène d'émotion, d'authenticité, c'est une scène où effectivement... Elle se livre sur... Parce qu'en fait, ce sont des taiseux aussi. Ce sont des gens qui gardent beaucoup les choses pour eux. Et finalement, c'est des rôles qui sont très, tout en subtilité, où on doit exprimer des choses sans forcément les dire verbalement. Et donc, il y a des choses qui se passent plus dans les silences, dans les regards, dans la gestuelle. Et là, pour la première fois, ou en tout cas une des rares fois où elle va vraiment sortir ce qu'elle a sur le cœur et dans le ventre, donc oui, c'était une scène qui était assez importante pour ce personnage. Mais en même temps, je crois que quand on tourne les films, toutes les constructions, même les scènes les plus anodines, elles sont importantes. C'est-à-dire que justement, il faut être criant de vérité, même quand on est tendu linge, quoi. Ou quand on fait du thé. Donc c'était une bonne expérience pour ça aussi, pour être juste dans la simplicité, dans les choses... du quotidien, on va dire.
Le film sort dans 2 jours. Sacha, tu l'as pas encore vu, toi. Comment tu te sens ?
Je me réjouis. Non, je me réjouis de le voir, de pouvoir... on l'a tourné il y a quand même 3 ans. Donc, de la curiosité et de l'envie de pouvoir voir toute cette histoire aussi d'un point de vue spectatrice.
Jeune comédienne que tu es, tu as envie de te voir à l'écran ou t'appréhendes ça ?
Non, j'aime pas trop.
T'appréhendes plutôt ?
Ouais, j'aime pas trop, mais c'est pas grave. Je regarde le film, je veux pas trop me regarder moi. Et puis voilà.
Fais-toi confiance, tu vois, le rendu est plutôt très très beau. Des images magnifiques. Dominique, les films, on a le temps de la contemplation, qu'on a le temps de voir les images, qu'on a le temps de regarder, de découvrir au cinéma. Là, c'est un vrai film de cinéma. On prend ce temps et c'est rare aujourd'hui.
Bah, je suis très touché par ton compliment déjà, et oui, c'était important pour moi d'avoir cet aspect contemplatif dans le film, parce que tout d'abord, la nature de Valensole, elle est absolument sublime, elle est magique, et quand on est là-bas, on rentre forcément dans un état contemplatif. Donc ça, j'ai voulu le montrer. Et puis, les gens qui travaillent la terre, qui sont en contact de la terre, ils sont dans cette contemplation, je pense, en permanence. C'est un état dans lequel finalement ils se rendent plus compte qu'ils sont dans cet état-là, mais eux, ils sont dans une autre temporalité. Les gens qui sont en contact avec la nature, et j'ai voulu aussi montrer ça.
Il y a un travail esthétique sur plusieurs scènes, vous verrez, qui est assez marquante, un travail d'effets spéciaux aussi, je crois qu'on peut saluer l'auteur des effets spéciaux qui a fait un travail remarquable aussi.
On peut saluer même dans l'ensemble toute l'équipe du film. C'était aussi une équipe jeune, pour beaucoup c'était leur premier long métrage à des postes importants. Je voudrais tous les remercier aujourd'hui parce qu'on fait pas de film sans une équipe formidable, et que ce soit les comédiens, l'équipe technique, les gens qui ont travaillé sur la post-production, je leur dis tous un grand merci aujourd'hui parce que ils ont tous aussi compris que voilà, on était dans un film qui était à petit budget et tout le monde a fait des efforts, et je leur remercie vraiment encore du fond du cœur.
Mais oui, parce que 3 ans de tournage, il sort maintenant, j'imagine, le parcours du combattant, mais aujourd'hui pour beaucoup de jeunes réalisateurs justement, et ça c'est beau, voilà, de le voir en tout cas dans 2 jours au cinéma. On va terminer par vos projets à tous les trois déjà, Vaina. Oui.
Une chose sur l'équipe aussi, c'est que il y avait beaucoup de passionnés d'ufologie. Et je pense qu'il y a des gens qui vraiment sont allés sur ce projet parce que c'était très important pour eux aussi de parler, voilà, d'ufologie, de leur passion et de leur curiosité pour des espèces extraterrestres. Donc ça aussi, c'est un, voilà, c'était un élément important qui nous a tous réunis, je pense.
Oui, il y a une sorte de fascination, évidemment. Vos projets, donc, à tous, pour terminer. Vaina, est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir, cinéma, télévision, dans les mois qui viennent, que tu as déjà tourné?
J'ai une année assez fructueuse, dense. Donc j'ai fait une série pour OCS Canal qui s'appelle ONG, un film avec Emmanuel Béard, voilà, Les Immortels, et ensuite une série sur France 2 qui s'appelle Vendetta, voilà, que je viens de terminer.
Il sera programmé la saison prochaine, d'ailleurs, sur France Télévisions. Mathias, tu seras à l'affiche du prochain téléfilm de Thierry Binisti aussi, Liberté, Égalité, Fraternité, aux côtés de Macha Merrill et Pasquale Dinca, notamment.
Exactement, qu'on a tourné en avril et qui va sortir, je pense, à la rentrée. Sinon, moi, c'est en ce moment beaucoup d'écriture, parce que je suis en train d'essayer de monter mon premier long. Donc voilà.
Ma chère Sacha, pour toi.
Oui, moi j'ai un film franco-suisse qui devrait sortir en septembre ou en octobre, qui s'appelle À bras le corps. Puis je m'installe à Paris, donc c'est quand même un petit changement et on verra par la suite ce qui se passe.
Tous les chemins du possible sont possibles.
Exact.
Merci en tout cas à tous les quatre. Ça s'appelle Valensole 1965. C'est notre coup de cœur ciné de cette semaine. Ça sort mercredi dans les salles et on va se requitter avec un nouvel extrait. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous et d'avoir partagé un morceau de cette émission, cette avant-dernière de la saison avec nous. Merci.
Merci.
Merci Alain.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Tu crois qu'il n'y a que toi qui subis cette histoire ? On nous regarde comme des bêtes curieuses dans le village.
Monsieur Mas, que vous avez vu exactement ?
Foutez le camp, j'en tue un !
Bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé, évidemment, ce soir est consacré à Nouveau Jour, dont on consacrait une émission entière, justement, lundi dernier. On va continuer à en parler avec les comédiens et comédiennes de la série. Et justement, Juliette Chen est avec nous, alias Magali, dans la série. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, si on n'a pas assez de doses de Juliette ce soir, la chance qu'on a, c'est qu'à 21h10, hop, on tourne le bouton sur TF1 et on atterrit sur Camping Paradis, où tu y joues aussi le rôle de Stéphanie, une soirée entière comme lundi dernier. Avec toi, Juliette, en tout cas, Nouveau Jour, pour commencer, c'est un sacré challenge. C'est toujours excitant d'être au début d'une aventure, comme tu l'as été sur Plus belle la vie, par exemple.
Ah ouais, non, mais c'est vraiment un cadeau, quoi. Et en fait, Plus belle la vie, pour la petite anecdote, mon premier jour de tournage, c'était le lendemain de la première diffusion. Donc, on va dire que j'étais pas tout à fait là au début des premières lectures, des premières rencontres entre comédiens. De Plus belle, j'ai fait partie des premiers personnages, mais j'y étais très peu. Juliette Frémont est vraiment arrivée au fur et à mesure et a trouvé sa place au sein de la série un peu plus tard. Alors que là,
t'es dès le premier.
Ouais, dès le premier. Et puis, je suis là depuis le tout début. J'ai fait la découverte des décors avec les équipes. Il y avait encore les mecs qui étaient en train de peindre les décors, monter des structures. On a eu des séances de lecture. On a rencontré les auteurs. Enfin, voilà, on était dans l'inconnu total. Alors que moi, Plus belle la vie, avant de tourner, j'avais vu déjà quelques images. Donc, j'avais déjà le ton un peu. 20 ans après, non, mais c'est fou, quelle chance.
Ben oui. Et quand t'as découvert le château, qui allait être le théâtre, on va dire des intrigues principales dans lesquelles t'allais jouer, ce château de Capion, qui est magnifique.
Ouais, c'est vraiment magnifique. Alors après, tout a été repensé au niveau de la déco intérieure. La déco de Nouveau Jour a fait un travail incroyable, mais la base est quand même superbe, hein, que ce soit l'extérieur, l'intérieur. C'est un charme fou, il y a une énergie différente d'un décor classique. On se sent très privilégié.
Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Magali, où il en est déjà arrivé de sacré, hein, avec déjà cet incendie au mariage dont elle a été victime, évidemment, dans cette première semaine de diffusion. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire en tout cas sur Magali ?
Ah bah Magali, justement, cet accident va chambouler un peu tout son quotidien, tout son rythme de vie installé depuis plusieurs années, où en fait elle a beaucoup donné à son métier. Elle est femme de chambre donc à l'hôtel Bartoli. Elle adore ce qu'elle fait, elle adore ses collègues, elle élève seule ses enfants qui sont maintenant grands. Donc voilà, elle perd un petit peu ses repères avec cette blessure. Mais toutes ces séances de rééducation sont aussi un moyen pour elle de faire peut-être un petit reset et peut-être de s'accorder un peu plus de temps pour elle, un peu plus de légèreté. Donc Magali, c'est vraiment quelqu'un qui est assez discrète, très dans l'empathie. Mais petit à petit, comme Nouveau Jour, c'est aussi quand même une série de femmes. Les personnages féminins ont
une grosse importance.
Avoir de très belles, des très belles choses à jouer et beaucoup de thèmes forts vont surgir pour chacune de nous. Donc voilà, après, il faut suivre la série pour en savoir plus.
Ben oui, bien évidemment. Est-ce que tu as hésité avant de repartir sur une quotidienne quand on connaît le rythme intense de tournage et tout l'investissement personnel que vous devez y mettre ?
Alors moi, quand déjà j'ai été appelée, j'étais super contente et j'avais vraiment très envie de faire partie de l'aventure. C'est pas qu'on oublie, mais c'est vrai que les premiers jours de tournage, on est un petit peu déstabilisé. C'est vrai qu'on tourne très vite, il y a beaucoup de monde, on nous donne beaucoup d'informations. Après, effectivement, le fait que j'étais pas novice, on travaille beaucoup en amont, même seule. Pour l'apprentissage des textes, pour la réflexion qu'on peut faire sur notre personnage, pour proposer des choses aux réalisateurs qu'on rencontre assez tard dans le temps, finalement, juste avant de tourner. Donc, j'avais très envie de ça. Finalement, à un moment donné, je pense que j'en avais fait le tour il y a 20 ans. J'ai eu la chance de pouvoir, entre-temps, faire du théâtre, défendre d'autres personnages sur des unitaires, des choses dans un schéma plus classique. Mais défendre un personnage dans une quotidienne, c'est quand même prendre le risque aussi de jouer des choses très différentes, même parfois peut-être un peu abracadabrantes, mais en tout cas, moi, comme tout ce que je fais, je l'ai fait avec beaucoup de sincérité, mais non, j'ai pas hésité.
Et puis surtout, ce qui est chouette, c'est que ça permet de défendre toute une palette de comédies et de choses différentes à jouer, une quotidienne.
Ouais,
parce que
jeu,
voilà, il y a de
aller,
la comédie, il peut y avoir du drame, il y a plein de choses différentes dans Magali que tu vas pouvoir nous faire découvrir en tout cas.
Ouais, et puis on rencontre plein de comédiens différents. Puis dans les quotidiennes, en fait, ça va vite, mais je veux dire, les professionnels qui nous entourent sont vraiment genre de haut vol, quoi. On se sent très en confiance aussi, quoi. Après, faut y aller.
Et donc ce soir, à 20h35, c'est Nouveau Jour. La suite, évidemment, avec le 6e épisode inédit. Vous aurez déjà le 7e et le 8e en avance sur M6 Plus Premium, évidemment, pour les abonnés qui ont de la chance. Et puis, ce soir, dès 21h10, la fin de Nouveau Jour, on tourne le bouton et on va sur TF1 puisqu'on va te découvrir dans un nouvel épisode inédit de Camping Paradis, Les Enfants d'abord. Alors déjà, qu'on soit un petit peu clair, Juliette, est-ce que tu as quitté Camping Paradis ou est-ce que pour l'instant tu as fait une pause, un retour de Stéphanie est possible ou est-ce qu'on va voir un petit peu moins Stéphanie mais on continuera peut-être à la revoir aussi à l'avenir. Qu'est-ce qu'il en est là-dessus ?
Non, faut jamais dire jamais parce que on sait pas, mais en tout cas pour l'instant Stéphanie c'est les derniers épisodes dans lesquels elle apparaît et dans toute la saison qu'ils sont en train de tourner actuellement, j'y suis pas du tout. Moi déjà je suis pas partie en claquant la porte, je m'entends toujours très bien avec toute l'équipe. Mais j'avais envie en tant que comédienne de faire d'autres choses et donc voilà, l'équipe a continué leurs aventures sans moi et moi du coup ça m'a permis de prendre d'autres décisions, de justement d'attaquer Nouveau Jour sereinement,
et de t'y investir pleinement.
Voilà, exactement. Mais le Stéphanie existe toujours, même si on la voit pas. Et puis Tom et Stéphanie ont quand même leur petite fille ensemble qui est toujours présente, donc voilà. Après, je ne sais pas les auteurs de Camping ce qu'ils vont décider de faire, mais ouais, pour l'instant, là, Stéphanie, c'est les derniers épisodes dans lesquels on voilà. va la voir.
Et après, une petite pause, en
ouais.
tout cas.
Mais c'est vrai que lundi dernier, j'ai eu tellement de messages sympas du public. Voilà, ils sont vraiment fidèles, que ce soit sur M6, TF1. C'est super, ça fait trop plaisir.
Comment tu le prends tout ça, tout ce public et ces marques d'affection qu'ils te portent à toi? Parce que tu vois finalement, que ça soit dans Plus Belle, que ça soit Stéphanie dans Camping Paradis ou maintenant Magali, les gens te suivent, t'aiment finalement, tu vois?
Ouais,
quel que soit le rôle que tu joues.
Oui. Puis je pense que j'ai toujours défendu des personnages plutôt attractifs ou en tout cas assez doux, qui me ressemblent. Et puis je suis dans des programmes effectivement populaires et je pense que les gens qui regardent ça, s'ils viennent vous parler ou vous écrire en général, c'est plutôt bienveillant. Je sais que par les réseaux sociaux, parfois il y a des déferlantes de haine qui se font, mais moi je suis pas du tout la cible de ça et donc je prends ça vraiment comme un cadeau parce que dans le public, c'est vrai qu'on n'est pas grand-chose, donc ça fait toujours du bien. En fait, faut pas hésiter.
Eh ben t'as raison. Profite. Ce soir l'épisode s'appelle Les Enfants d'abord, où les enfants vont avoir une jolie place justement dans cet épisode, puisqu'on va y découvrir un jeune homme qui vient avec ses deux filles au camping et qui va leur présenter, suite au décès de son ex-femme, eh bien, va leur présenter sa nouvelle femme qui, elle, vient aussi avec ses deux garçons. On va y découvrir aussi une femme, on va dire, qui, elle, croit qu'il y a du room service au camping. Il va y avoir encore plein d'histoires qui vont se percuter, en tout cas, dans cette série. Mais on le sait, tout finit bien tout le temps. C'est ça qui est bien au Camping Paradis.
Ouais, exactement.
La petite, elle est mignonne comme tout, dis donc, celle qui joue ta fille aussi.
Ouais. Elle a commencé vraiment petite. Hein. Enfin, voilà, elle a pris du temps à prendre ses marques et tout, mais elle a toujours été tellement contente de venir nous voir que nous aussi, hein, ça se sent. Enfin, du coup, on crée un petit truc familial, quoi, famille de fiction. Mais
ben oui, puis elle est là à chaque scène d'ouverture de la série, donc c'est chouette maintenant de vous retrouver.
C'est vrai.
En tout cas, pour l'instant, tous les trois en scène d'ouverture de la série. Bon, on continue à te suivre, en tout cas, ma chère Juliette.
Un grand merci d'avoir pris le temps de prendre de mes nouvelles.
Ben
de
oui.
Communiquer sur tout ce que je fais, c'est super.
Et puis ce soir, 20h35, c'est Nouveau Jour sur M6, 21h10, Les Enfants d'abord, Camping Paradis, pour un nouvel épisode inédit. On te souhaite un bel été, en tout cas, on te souhaite plein de belles choses et à très vite.
Merci à vous aussi, à très vite.
Et je vais vous montrer pourquoi ce camping s'appelle Paradis.
C'est pas un camping comme les autres ici.
C'est la famille. Alors hein, franchement, c'est sympa là.
On passe des vacances de rêve tous ensemble. J'ai retrouvé ma famille, mes amis. Enfin, ce que tu veux.
Ça va être cool. Tout devrait bien se passer.
De l'amour, de l'eau fraîche. Du soleil, un petit peu de plage. La vie.
Oh la vache, Christian!
Amusez-vous, dansez, chantez.
L'équipe du camping revient lundi à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+.
Et notre coup de cœur télé consacré évidemment au grand retour de OPJ, une série qu'on suit maintenant depuis plus de 6 ans. Et on a le grand plaisir d'avoir l'un des héros de cette série, Antoine Stipe, qui est avec nous, alias Gaspard. Bonjour Antoine.
Bonjour Alain, bonjour Chut, on écoute la télé, bonjour les auditeurs.
Mais quel bonheur de retrouver OPJ à La Réunion pour une 6e saison inédite et là entièrement diffusée en prime time. Ça va être la série de l'été, ça démarre demain sur France 3, il y en a pour jusqu'à mi-août. Et on va se régaler avec 6 enquêtes, en tout cas passionnantes, 6 soirées passionnantes, des guests prestigieux qui vous ont rejoint tout au long de cette saison. Et alors pour faire un petit rappel, on a laissé en tout cas à la saison 5 la rupture entre Kelly et Jackson. Et on peut dire que Gaspard est en bien mauvaise posture en fin de saison puisqu'on entend un coup de feu, on ne sait pas ce qui lui est arrivé et on va découvrir dans ce début de saison 6 le destin de Gaspard qui est pas bien en point, mais j'espère que ça va s'arranger, hein, Antoine, rassure-nous.
Faisons languir encore un peu le suspense. Faisons languir.
Bon, en tout cas, allez, on va dévoiler quand même parce que c'est sur les réseaux et tout, on sait que t'es sur le tournage de la saison 7, donc on sait que Gaspard va pas mourir quand même.
Ah, voilà.
Parce que là, ça me ferait de la peine.
Et voilà, il faut des rebondissements, hein. Il faut que les cliffhangers d'une fin de saison doit nourrir le suspense pour attendre la saison suivante. Donc là, effectivement, le coup de feu va me mettre mal en point, mais comme d'habitude, je vais renaître de mes cendres. Et voilà. Mais il y aura beaucoup d'humour dans cette saison-ci. Ce personnage de Gaspard sera toujours le même, hein, attachant. C'est une série policière, mais qui use aussi beaucoup de l'humour. Et voilà. Et moi, j'en suis une des caractéristiques.
C'est aussi un éternel amoureux, Gaspard, quand même. Depuis le début de cette série.
Oui,
il amène beaucoup de scènes de comédie aussi à travers les histoires qu'il a eues durant la série.
Oui, bah oui. À chaque fois, il a ce côté un peu maladroit, mais touchant, quoi. Enfin, c'est un peu le tonton ou l'ami de la famille, quoi. C'est ça, c'est un, il joue un peu de ça. Et puis, bah, les rapports qu'il a avec Larissa sont toujours très fort, avec Jackson aussi et avec Kelly, voilà. C'est une famille, quoi. C'est vraiment une famille.
Alors, toi qui enchaînes à la réunion des tournages depuis maintenant bientôt 15 ans, tu dois connaître l'île en long et en large et en travers, mine de rien, parce que t'as fait 6 ans, je crois, dans Cut, si je me souviens bien. Et là, maintenant, on est à la 6e saison de OPJ. C'est une aventure, en tout cas, pour l'instant, qui se déroule absolument sans accroc et dont on va découvrir la suite. Mais c'est vrai que la réunion est un des personnages phares de OPJ, maintenant.
Cut, c'était 420 épisodes. Là, au PJ, bah, on attaque la 7e saison. Effectivement, c'est une terre de tournage. Et pour moi, c'est une terre de tournage aussi. Il n'y a pas un grain de sable que j'ai pas retourné sur cette île. Et puis l'an dernier, en 2024, j'ai également fait d'autres tournages. J'ai tourné dans ONG, dans Boucle. Donc, c'est bien aussi. Cut avait servi de gros tremplin pour créer des talents techniques artistiques. Et là, maintenant, bah, grâce à ça, maintenant, il y a des tournages là-dessus ici et c'est chouette. Quoi.
Alors, trois guests prestigieux, encore une fois, dans ce retour, en tout cas dans cette saison 6 et dans les deux premiers épisodes qu'on verra demain soir avec Frédéric Chaud, avec Bruno Solo et Joséphine Jobert. On va y découvrir, en tout cas, dans ce double épisode demain soir, le destin d'Adèle Meyer, incarnée par Joséphine Jobert, qui est fondatrice d'une association pour jeunes en difficulté. A priori, quelqu'un en veut beaucoup à cette femme qui est pourtant généreuse, plutôt tourné vers les autres. Et en plus, à plusieurs reprises, le sort a l'air de s'acharner. Et c'est toute l'enquête qui va être, puisque Jackson, sans le vouloir, en étant à ton chevet, va faire la connaissance de son mari, Ruben Meyer, qui est incarné par Bruno Solo, puisqu'il est infirmier à l'hôpital où tu es. Donc voilà un petit peu pour situer le début de l'intrigue qu'on va retrouver demain soir.
Absolument. Et Frédéric Chaud fait partie maintenant de l'équipe à temps plein.
C'est chouette, ça, c'est une bonne nouvelle.
Et également Mona Claude, qui était déjà avec nous et qui a joué dans 11 cette année sur
France.tv.
Carton aussi, et voilà, et on est ravis de cette brigade.
Quand il y a une année qui passe comme ça, quand vous avez 8, 9 mois, et que vous vous retrouvez, vous avez l'impression de vous être jamais quitté. Maintenant, vous vous connaissez tous par cœur avec Yaël, avec Nathan, avec Marielle.
Ah oui, mais c'est un... Alors d'abord, on communique quand même souvent hein, dans l'année, hein, même si on est tous aux quatre coins du globe et dans nos vies. Mais quand on se retrouve, bah, les yeux sont humides. Hein, on a démarré à Nouméa et l'aventure est magnifique. Et puis, bah, on est passé du daytime au prime.
C'est un destin fou pour OPJ, c'est clair.
Ah oui, et puis on fait des super scores. Hein.
C'est chouette. Et puis dans une semaine, il y aura deux nouveaux épisodes, évidemment. Il y aura encore des guests. C'est Sarah Mortensen et Hubert Delattre qui viendront vous rejoindre à La Réunion pour encore une double enquête passionnante. Alors sur cette saison, c'est 12 fois 52 minutes, mais uniquement diffusé en prime time. Donc on va, ce que je disais, on va vous voir jusqu'à mi-août, mine de rien. Comment a pris toute l'équipe cette belle nouvelle?
Bah avec joie et puis fierté, parce qu'en fait... C'est la reconnaissance du travail accompli. Nous, si on fait des séries, c'est pour rencontrer un public. Et là, le public, il est impatient. Nous, on reçoit des messages d'impatience toute l'année, de savoir alors quand est-ce que ça retourne, quand est-ce qu'on vous revoit. Bon, bah là, ça y est, c'est demain.
Et oui.
Et jusqu'à mi-août, c'est ça. Bah nous, on est heureux, hein, évidemment. Hein.
Malgré elle, en tout cas, c'est le titre du double épisode qu'on va suivre demain soir.
Oui, c'est ça.
Et puis on va continuer à vous suivre en tout cas tout au long de l'été, puisqu'OPJ, c'est désormais la série de l'été de France 3 à découvrir tous les mardis. Et c'est à 21h10, évidemment, et c'est à ne pas rater. Merci, mon cher Antoine, d'avoir été avec nous.
Mais Alain, avec bonheur. Et puis là, on va vous fabriquer encore une belle saison et
on a hâte.
Pourvu que ça dure.
Oui, vous avez travaillé tout l'été dur, en tout cas pour une belle nouvelle saison qui sera diffusée l'année prochaine, évidemment, avec encore des guests prestigieux. Vous recevez du beau monde, allez sans nous dire qui, mais vous recevez du beau monde en ce moment pour ce début de saison 7.
Oui, je peux vous dire que dans la saison 7, on aura la chance d'en découdre avec Thierry Godard.
Ah oui.
Claire Borotra, qui vient d'arriver là, et Frédéric Bell.
Bien.
Voilà, et puis d'autres encore sur les 6 enquêtes qui vont être réparties en 2 épisodes pour chaque soirée.
Et ben voilà pour le petit scoop en tout cas. Merci beaucoup mon cher Antoine, on te dit à bientôt et puis on va se quitter avec la bande-annonce. OPJ revient demain et c'est à 21h10 sur France 3, ne le rate pas. Merci, à bientôt Antoine. Et la bise à toute l'équipe, évidemment.
Ouais,
ah, Yael, Nathan, Marielle, évidemment. Qu'on n'a jamais eu encore, mais on ne désespère pas, en tout cas qu'on adore aussi, tu y passeras. En tout cas le petit message, chut, on écoute la télé, elle adore Marielle Carabeux.
Eh ben, je dirai ça à tout le monde quand je vais le croiser ce soir.
Allez, à très vite. Merci Antoine.
Ah, merci Alain. À bientôt. Au revoir.
Cap sur l'île de la Réunion avec le retour des flics d'OPJ.
C'est un vrai labyrinthe ici. Police.
L'arme du crime, ça pourrait être un truc dans le genre. suis une connerie.
OPJ, nouvelle saison inédite, mardi 8 juillet à 21h10 sur France.tv et sur France 3.
Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, avant-dernière émission de la saison et on est super bien entouré aujourd'hui puisqu'on va parler de Demain nous appartient évidemment, mais on va parler aussi musique. Ils sont là tous les deux avec nous aujourd'hui. Elisa et Zedine est avec nous. Bonjour Elisa.
Bonjour.
C'est une première, l'interprète de Camille dans Chut, on écoute la télé. Je suis très fier que tu sois là. En tout cas, merci.
Avec toi aussi.
C'est vrai ?
Ouais, très belle rencontre.
Bon, et ben Sacha Birdy est là aussi. Et moi, si j'adore un gars, c'est Ryan, franchement, dans la série. Parce qu'il envoie, il dit toujours ce que tout le monde pense des fois tout bas. C'est un mec qui est caché, qui envoie du lourd. Et Sacha, et ben merci d'être là aussi.
Ben, merci beaucoup, moi aussi, ça me fait très plaisir.
Et puis depuis vendredi, Mange ton ex, c'est un projet musical qui vous rassemble tous les deux et qu'on va écouter dans un instant, d'ailleurs, évidemment. Et puis, ben, juste avant de parler musique, on va parler évidemment de Demain nous appartient. Alors Sacha, j'ai l'impression que là, il y a un petit peu de distance avec la série pour te consacrer aussi à de nouveaux projets. Mais on va dire que tu nous as laissé un Jack en piteux état quand même.
En piteux état. Bah moi j'espère que les gens ils l'ont pas pris comme ça hein. Moi pour donner un petit peu mon avis, je sais que Ryan en tout cas, lui en l'ayant incarné, si je me mets dans sa position, lui il a jamais voulu faire de mal à Jack, et je pense que ça les gens ont quand même
on l'a complètement ressenti, ça avait vraiment tombé dessus en fait finalement.
Bah à la base c'était un jeu avec Jack en lien avec Jimmy. Cette relation, on savait pas trop comment l'entreprendre. Et au final, bah, Ryan, il finit par tomber amoureux et ça lui est tombé dessus, en fait. Et comme dans la vie, parfois, ça nous tombe dessus. Et lui, je pense que vous l'avez compris, mais il a jamais voulu faire de mal à Jack. Et même à la fin, on l'a vu dans une scène, et c'est d'ailleurs même la dernière scène qu'on a tournée ensemble et ça nous a ému. C'est la scène où, en fait, on est sur la plage et je m'approche une dernière fois et on se dit, bon, bah, à plus, en fait. Au revoir.
Il dit, ça se finit comme ça? D'ailleurs, je me rappelle Dimitri qui a cette réplique.
Que la fin soit aussi pourrie dans la vraie vie, ça aurait été vraiment compliqué une relation comme ça. Mais en tout cas, moi, je veux surtout pas que les gens pensent que Ryan, il a voulu faire du mal à Jack et il a vraiment des pensées bienveillantes envers lui. Voilà.
En tout cas, on sait très bien que Ryan, c'est quelqu'un qui vit intensément depuis le début. Ce personnage vit intensément tout. Et effectivement, voilà, ça lui tombe dessus. Et puis, il décide de tout quitter, de partir, justement, avec Jimmy. Et c'est ça aussi la particularité de ce personnage. C'est que depuis le début, il ne joue jamais faux avec qui que ce soit. Il est intense dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit.
Il est, il fonce un peu tête baissée. Et je pense que c'est un personnage que j'ai aimé jouer parce qu'il y a un point commun que j'ai avec lui, c'est que, on vit les choses réellement avec le cœur, dans le sens où on essaye de vraiment mettre notre âme. Donc, par exemple, moi, quand je jouais le rôle et que je l'incarnais, quand je m'énervais, je m'énervais vraiment, en fait. Et j'essayais de montrer que le personnage, justement, il se donne à fond. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il fonce tête baissée et il fait ce qu'il a envie. Il est un peu rebelle, voilà.
Est-ce que c'est un départ définitif ou la porte est pas fermée vers un retour? Est-ce que c'est juste une pause pour le moment?
Non, la porte, je la ferme pas du tout. Après, c'est vrai que moi, j'ai des ambitions de cinéma, j'ai des ambitions même de comédie musicale parce que moi, depuis tout petit, j'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup chanter, rapper, slammer, et donc je suis ouvert à d'autres
univers.
À d'autres univers, exactement. Mais c'est pas pour autant que je ferme une porte non plus. Voilà.
Finalement, Sacha vit intensément aussi.
Voilà.
c'est bien dit. Alors, on va y revenir évidemment dans un instant. On va revenir à la musique. Justement, on va revenir sur le personnage de Camille. Moi, je suis content parce qu'il n'y a plus de bracelet électronique au pied déjà. Donc, ça, c'est pas mal.
Ah, c'est génial. Après, moi, j'ai bien aimé avoir ce bracelet électronique. C'était plutôt intéressant à jouer. Parce que je sais que j'en aurais jamais dans la vraie vie. Et du coup, le fait de le découvrir sur un plateau et de le jouer, c'était cool.
Elle est intense, Camille, aussi. Hein. Depuis le début, c'est quelqu'un qui vit aussi intensément, qui a des histoires d'amour parfois compliquées, qui a un vécu compliqué dans ses dernières années. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui, malgré toutes ses complications, est solaire, toujours.
Oui, très solaire, très positive. Mais c'est vrai que, comme tu l'as si bien dit, en vrai, elle a un côté aussi où elle peut éclater très vite. C'est-à-dire que si on l'énerve, elle s'emporte. Elle a les émotions, en fait, à l'extrême. Un peu comme le personnage de Ryan, dans un sens. Mais en ce moment, je pense que tu le remarques à la télé, elle essaie de se canaliser grâce à sa mère. Voilà.
Sa mère, on va en parler. Jennifer Lauré, qui est tellement incroyable et qui est tellement maternelle. Parce que elle a que des filles, hein, Jennifer, ouais. Je crois, en plus. C'est vrai que ça se mélange, il y a une relation particulière qui a dû se créer entre vous.
C'est une belle bande de copines et aussi une belle famille. Parce que le fait d'être trois filles aussi, ça nous soude. Et il y a un côté un peu où on fait un peu les fofolles, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas pareil, en fait. que le fait d'être trois filles et qu'il n'y ait pas de garçon, maintenant il y a Franck Monsigny qui est notre beau papa, bah justement le fait qu'il soit...
Il y a l'avocat, quand même.
Oui, il y a l'avocat.
Qui lui ne lâche rien hein, pourtant. Hein.
Il est fou amoureux de Camille, ouais, c'est vrai. Mais je pense que Camille, elle l'aime aussi très fort. Hein. C'est juste qu'il y a trop de choses qui la perturbent. Même on le voit dans sa rupture avec lui, il y a un côté où elle est sûre de partir. Parce qu'il a fait trop de choses et puis elle a besoin de cette séparation. Et dans un autre sens où elle lui presque « je t'aime, mais c'est non, quoi. » C'est non.
C'est dur, hein.
C'est très dur. Cette scène était très dure à jouer. Parce que aussi, je suis très attachée à Sofiane Francine. C'était un très bon acteur avec qui j'ai adoré justement faire ce duo. Donc c'était un peu une séparation pour les personnages, mais aussi pour nous, parce qu'on allait moins jouer ensemble, quoi. Donc je l'ai vraiment vécu, cette séquence.
Bon, cet été, il va s'en passer des choses à 7. C'est juste dingue. Alors, il y a une histoire de requin, l'arrivée de Jean-Luc Reichmann. Alors, ça, c'est pareil, l'arrivée de Jean-Luc Reichmann sur le plateau, c'est un événement quand même.
C'est un événement, sachant que j'ai déjà tourné avec lui dans la série Léo Mattei, donc c'est une vraie, des vraies retrouvailles. Je l'ai revu sur le plateau d'ailleurs il y a pas longtemps et ça m'a fait tellement plaisir de le voir. Je me rappelle de sa réaction, il m'a dit t'as grandi.
Ah oui, carrément.
Ouais, j'ai bien changé depuis, mais ça m'a fait tellement plaisir de le voir parce que c'est avec lui que j'ai tourné pour la première fois. C'était mon premier rôle à la télé, quoi, Léo Mattei.
On essaie de nous faire les dents de la mer, en fait. Qu'est-ce qui se passe, là, cet été à 7?
Je vais rien dire, mais c'est vrai que mon personnage n'est pas très impliqué dans cette histoire-là. Il sera impliqué dans d'autres choses. Mais ouais, non, je ne vais pas spoiler, je vais éviter.
Bon, en tout cas, à la rentrée, on va la voir beaucoup, Camille.
Il y a plein de choses qui arrivent pour Camille.
Donc, tu tournes au mois de juillet, pas mal.
Ouais, je pense qu'en fait, il y a des choses que... Je pense que tu vas m'appeler. Voilà, je pense que tu vas être très surpris de ce qui va se passer.
Ouais. Bon, j'ai hâte de voir ça, évidemment. Demain nous appartient, vous savez, ça continue hein, tout l'été, de l'inédit, du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. On va écouter un petit extrait, tiens, de vous dans vos œuvres. Et juste après, on revient, on parle musique avec tous les deux. Mange ton ex. J'ai hâte que vous nous en disiez plus. Ça, tout de suite.
Papa.
Comment ça va, mon cœur?
Alors, Nina, comment tu trouves ton grand frère?
T'es comme sur la photo que papa m'a montrée, mais en mieux.
Ah, merci, c'est gentil, toi aussi, t'es Mimi.
Je pourrais venir avec toi quand tu iras voir Ryan à Paris?
On va s'organiser ça, ma chérie, d'accord?
La gomme des pneus de la voiture de Soizic Vernet correspond pas à celle qu'on a retrouvée sur le corps de Tozello.
On a vérifié l'alibi de François Lehaut.
Là, ce que tu vois en rouge, c'est la zone où le portable de Soizic Vernet a borné le soir du meurtre. En bleu, c'est la zone où le portable de François Lehaut a borné.
Putain, il était là lui aussi.
Papa!
Ça va aller, mon grand, ça va aller.
Papa!
Allez, demain nous appartient donc du lundi au vendredi 19h10 sur TF1. Elisa et Zéline et Sacha Burdy sont avec nous et on va parler musique, les amis, puisque depuis vendredi, on peut découvrir, en tout cas sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement légal et sur le net, le titre « Mange ton ex » et tu vas nous expliquer un petit peu le principe. Ça s'appelle la démence, c'est ça, Elisa ?
C'est exactement ça, ça s'appelle la démence. Donc avec Sacha, on a lancé un groupe... qui s'appelle La Démence, qui est en fait un projet musical dans lequel on aimerait pouvoir s'exprimer. Tous les deux, pouvoir dire ce qu'on veut, et surtout des choses que peut-être des gens l'ont pensé, mais l'ont pas encore chanté.
Et qui puissent s'exprimer.
C'est ça, c'est vraiment dire tout, ce que les gens pensent tout bas, et ce que, surtout, parfois ils osent même pas dire. Enfin vraiment, c'est tout ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes, bah nous on essaie de
sortir à leur place.
Alors, c'est ça, ouais, voilà.
C'est un projet de fou, quoi.
Ouais,
la démence.
Ouais, c'est ça. Et surtout, s'amuser, en réalité. Parce que ce projet va nous permettre de pouvoir expérimenter les choses qu'on aime faire. Par exemple, Sacha, il adore danser, donc ça le permet de danser. Il adore chanter, on chante, etc. Donc en fait, on touche même à la caméra. On s'amuse à créer nos plans, nos images, etc. Donc en fait, c'est plein d'art qui se réunit dans un même projet, quoi.
C'est un projet très proactif et très créatif parce que c'est vrai que on essaie de mettre en œuvre un petit peu tout ce qu'on sait faire, c'est-à-dire que bah moi par exemple si on doit par exemple faire une danse, bah moi je vais plus toucher à la chorégraphie. Elisa est très forte pour tout ce qui est les plans, mise en scène, tout ça, et du coup c'est vraiment une valeur ajoutée au projet et ça nous permet du coup même de nous entraîner peut-être si un jour parce que plus tard je pense comme Elisa, bah on aimerait aussi être réalisateur dans le futur, donc ça nous permet un peu de nous initier nous-mêmes, donc
toucher un peu à tout.
Ça, exactement, ouais.
C'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir toucher un peu à tous les univers. Et c'est vrai que vous êtes un peu multitâche, vous deux, parce que Elisa, en plus, c'est une voix magnifique. Et c'est vrai que là, les gens vont la découvrir dans un instant. Et ça faisait un moment que j'avais envie qu'on puisse justement faire découvrir aussi ta musique. Mais vous êtes des artistes multifacettes.
Merci beaucoup. En tout cas, je suis très contente de partager ça avec toi.
Bah, écoute, on va découvrir ça dans quelques instants. On va parler de vos projets. Est-ce que justement le but, c'est peut-être de faire un album ou pas?
Oui, clairement, on aimerait bien sortir plein de sons là et essayer de les enchaîner un petit peu. C'est vrai qu'on a été un peu en stand-by récemment parce qu'on avait d'autres projets aussi à côté. Donc pouvoir, pourquoi pas tenter tous les 2-3 mois lancer une chanson et peut-être un jour monter sur scène et pouvoir justement travailler, expérimenter la scène qu'on n'a pas encore fait tous les deux.
Vous avez fait tout que tous les deux sur Mange ton ex ou vous avez collaboré avec d'autres personnes au niveau de la musicalité, au niveau des paroles
Le compositeur, c'est Jim Bauer. Lui, il est exceptionnel. Il a 900 cordes à son arc et il nous aide beaucoup, surtout puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le milieu, qui a vu traverser beaucoup de choses et qui en sait plus que nous sur le milieu. Bah, il nous permet, disons, de gagner du temps sur certaines choses, d'aller droit au but, de nous mettre un petit peu sur le droit chemin. C'est-à-dire que nous, c'est vrai que vu que le projet s'appelle La Démence, évidemment que nous, bah, l'objectif, c'est de montrer un peu notre folie. Voilà.
Être bien entouré, du coup, quand même, c'est important aussi là-dessus.
Ah, on est super bien entouré. Et d'ailleurs, justement, je le remercierai jamais assez pour ça, c'est qu'il nous permet justement de faire ça. C'est sans lui, on aurait eu du mal aujourd'hui à pouvoir faire tout ce qu'on est en train de faire actuellement avec le projet La Démence. Comme il l'a dit si bien, c'est qu'il nous canalise, donc il nous aide vraiment à toucher du doigt vraiment ce qu'on a envie de montrer.
Les projets pour vous deux. Donc à part peut-être un futur album effectivement avec La Démence, Demain nous appartient et évidemment. J'imagine que toi, pour toi Sacha, il y a pas mal de choses qui se dessinent. Le Négociateur aussi ou pas? Est-ce que tu vas participer à éventuellement la prochaine saison?
Bah c'est probable, moi j'attends de recevoir le scénario.
Ce serait bien qu'on le voit un peu plus quand même.
Ah bah oui, moi c'est vrai que qu'il est dans la deuxième saison, on l'a pas beaucoup vu et la seule fois où on l'a vu c'était dans un conteneur. Donc c'est vrai que
c'était pas en bonne posture.
Ouais, tout ça c'est pas très joyeux. Mais non, je suis pas contre à ce que le personnage en soit... En fait, moi, j'aimerais bien que Adrien, on aille beaucoup plus en profondeur dans le personnage. Il ait beaucoup plus de choses à défendre.
Ça qu'il y ait un épisode peut-être qui impacte plus, qui soit un peu le... Voilà.
C'est ça. Du coup, bah, c'est à voir. Voilà, je vais me laisser surprendre par le scénario. Voilà.
Il y a des choses que t'as tournées qui vont être bientôt diffusées avec toi?
Pas pour le moment.
Non. Bon, ça va venir.
On espère.
Oui. Et pour toi, Elisa, est-ce qu'il y a des choses qui sont tournées, qui sont pas diffusées encore, qu'on va bientôt voir?
Alors récemment, j'ai tourné dans la série Simon Coleman.
Ouais, avec notre ami Jean-Michel Tinivelli.
Oui, j'ai tourné avec lui. Franchement, il est super sympa. Et c'est assez chouette de tourner avec lui. Vraiment, il est très très fort. J'ai décroché un autre rôle que j'espère, si tout va bien. Le tournage sera prévu en 2026. Je n'ai encore aucune sûreté. En tout cas, le rôle, je l'ai. Peu importe quand est-ce qu'on va tourner, j'ai un projet.
Cinéma ou télévision?
C'est un long métrage. Je ne sais pas encore si ce sera au cinéma ou à la télé. Mais ce serait une histoire d'amour.
Bien. Bah écoute, on va suivre ça avec attention. Puis maintenant qu'on est connecté, tu reviens quand tu veux, tu le sais. Maintenant, dans Chute, on écoute la télé. Bon, on se l'écoute, Mange ton ex ou pas?
Bah carrément.
Ah oui, t'es prêt Sacha?
Partant, mais par contre, faut des pâtes à la bolognaise.
Ah bah écoute, allez, on se prépare ça.
Bah on sait jamais, hein. Ça se trouve, Ryan, il va revenir manger son ex à 7 bientôt.
On sait pas. Dimitri Fouque, si tu nous entends.
Oh là, je m'attendais pas à celle-là.
Allez, mange ton ex tout de suite, Elisa et Zedine et Sacha Birdie. C'est La Démence maintenant qu'on écoute, dans Chute, on écoute la télé.
Je passe vraiment une soirée de merde. J'ai quitté mon mec hier sur les réseaux et je vois tous ses potes. Ça se fait pas, mais j'avoue que ça me tente. Y a plein de trucs que je veux faire, mais que je fais pas pour mes parents. De toute façon, le seul mec beau est avec une Kardashian. Les cheveux blonds, les ongles longs. Un gros cul bien bombé. Je suis là toute nue devant mon miroir. Je suis un bâton.
Je passe vraiment une soirée de merde. J'ai quitté ma meuf hier. Depuis, y'a toutes ses potes qui m'envoient des textos. Mais je réponds pas. Je suis pas dans le mood. Je regarde ses stories. Ça me fout la haine. Elle a trop l'air de s'éclater. Eh les gars, je paye même une coach pour digérer. Je suis maladroit. Pas sûr de moi. Faut que je vois du monde. Faut que je me relève. Que je fasse du sport. Que je fasse monter ma sève. Je vais la rappeler.
Je mange mon ex. Je mange mon ex.
Quand j'ai faim, je mange mon ex.
Je mange mon ex. Quand j'ai faim, je mange mon ex.
Je mange mon ex. Quand j'ai faim, je mange mon ex.
Oh, oh. Comme un gorille dans le miroir, je vais leur montrer à toutes ces putes que même si elles veulent plus me voir, bah. Toutes les autres, elles me veulent encore plus.
Je suis là.
Non, bah, je suis pas fragile, moi, je vais le prouver. Là, par exemple, je viens de pêcher une meuf en soirée. On est au pieu. Putain, là, je vais la démarrer, mais putain! Je peux pas, je suis trop stressé là!
Ok, ce soir je sors et je m'habille peu. Faut que je vois ce que ça fait d'être au pieu avec quelqu'un que je connais pas.
Putain.
Johnny Depp, une Rihanna?
Ça me plaît, ça.
Attends, y'a ce mec là-bas, il a les pupilles complètement dilatées, un peu androgyne. Je crois que ça me plaît. On s'est pêché en fin de soirée. C'est moins bien. Je mange mon ex.
Je mange mon ex. Quand j'ai faim, je mange mon ex.
un truc comme une merde quand t'es pas là aussi.
Ouais, salut.
Qu'est-ce que tu veux?
Tu fais quoi là?
Rien, pourquoi?
Allez, ne bougez pas, dans un instant on parle de Tout pour la lumière, la nouvelle série de TF1 et Charlie Loiselier et Yara Shahri qui seront nos invités. Et puis Catherine David-Zenka également viendra nous parler de son aventure à Fort Boyard. Surtout ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook, chut, on écoute la télé.
Trois fois mieux ou trois fois pire, si je ne sais qui choisir. À quoi je renonce si se déchire ma raison contre mon désir.
Mais il est tard pour que mon cœur balance, trois fois trop tard pour que je renonce. Mais si ce soir c'est à toi que je pense, la faute à toi, à moi, à trois.
On sera jamais 203.
Trop d'amour à décrire, apprendre à laisser, à fuir. Au moindre écart, c'est moi qui reviens. Jusqu'à toi, sans toi, c'était rien.
Tu sais qu'au-delà des détours, on tiendra malgré les allers-retours. Et si ce soir, c'est pour toi que je cours, la faute à toi, à moi, à trois.
On sera jamais de jamais 203. On sera jamais 203. Jamais 203. On sera jamais deux.
Je ne sais toujours pas pourquoi
mon cœur bat pour deux. C'est comme ça, c'est le jeu.
J'ai beau compter jusqu'à toi,
nos secrets cachés n'auront qu'à rester gardés. On sait bien qu'à deux.
Trouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et on continue à parler de Tout pour la lumière cette semaine et on a deux autres héroïnes qui sont avec nous justement pour en parler. Charlie Loiselier, qui est presque une habituée de l'émission. On a eu la chance de t'avoir il y a 2 ans pour un très beau téléfilm qui s'appelle Respire. Merci Charlie d'être là.
Eh bien avec plaisir, c'est très agréable d'être là.
Et c'est le rôle de Maddy que vous découvrez en tout cas dans Tout pour la lumière. Et puis on a Yara Shahri, qui c'est le rôle de Sultana, qui a fait sensation, on va dire, dès le début de la série.
Ah, c'est gentil, je suis très heureuse d'interpréter Sultana en tout cas.
Alors on va en parler justement de ces deux rôles. Alors, on a pu voir déjà maintenant quelques épisodes de la série, elle est en train de s'installer, c'est tous les lundis. On rappelle, le rendez-vous est à 18h. Si vous avez hâte déjà de savoir l'avenir, bah, Netflix est votre voyant. Et vous pouvez tout voir, ça c'est plutôt bien. Et puis on va parler de vos personnages quand même. Alors Maddy, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Maddy, Charlie, déjà? Comment tu la définirais, toi?
Alors Maddy, elle a un look assez marqué. Elle a un look un peu rock'n'roll, elle a des tatouages, elle a vraiment une identité visuelle, mais en fait, ça reflète pas du tout son caractère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très sensible, elle s'occupe beaucoup des autres, elle fait attention à tout ce qui se passe, aux gens autour d'elle.
Je dirais très empathique aussi.
Elle est très empathique et surtout, elle, je pense qu'elle voit vraiment le bon côté chez les gens. Et du coup, elle prend Ellie sous son aile. Elle devient très amie avec Julianne. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour les autres, quitte des fois à s'oublier elle-même et à se perdre un peu dans tout ça. Et j'adore l'interpréter, elle me ressemble beaucoup et je suis trop contente, vraiment.
C'est bien, tu l'as défini bien parce que c'est vraiment ce qu'on ressent en tout cas sur ce personnage. Pour toi, Yara, Sultana, tu la vois comment ?
Ah, Sultana, elle est très solaire, elle est compétitive. Bien évidemment, dans les premiers épisodes, il se passe beaucoup de choses. L'arche avec Nils, avec Eliman. Donc, bien évidemment, elle a un côté aussi sensible, mais elle se laisse pas faire. Elle a toujours le dernier mot. C'est une fille solaire, c'est une fille qui aime vivre, qui est là pour réaliser ses rêves, même si, bien évidemment, dans son aventure et dans son chemin, il y a des péripéties.
Oui, il y aura des embûches, autrement, évidemment, ça serait pas intéressant. On va découvrir ça au fur et à mesure. Oui, un paquet. Comme dit Charlie, effectivement. Il faut dire que Sultana, dès le départ, a eu une aventure d'un soir et puis le lendemain... Elle voit arriver son chéri, revient et lui apprend qu'il veut venir participer au stage pendant 4 mois avec toi. Et là, ça devient compliqué à gérer tout ça.
Bah oui, parce qu'elle ne s'attendait pas et pour elle, son chéri était parti en tournage. Peut-être il avait des autres aventures et du coup, quand il revient et qu'elle a eu cette nuit avec Nils, c'est quelque chose où comment faire pour remédier en fait à l'amour qu'elle a pour lui, parce qu'elle l'aime vraiment, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, donc c'est un couple qui se connaît par cœur. Et il y a eu cette nuit qui a un peu tout chamboulé dans sa tête et qui
Nils va beaucoup en jouer.
Et oui, il y a du chantage, il y a Nils qui est pas facile. Et du coup, comment remédier à ça, parce qu'elle veut surtout pas faire de mal à Eliman et parce qu'elle l'aime, quoi.
Oui, c'est ça, vous avez vu, hein, j'en ai pas perdu une bouchée hein, jusque-là, ça c'est vrai. Maddy, elle a pris Ellie sous son aile. C'est vrai qu'on a tout de suite senti l'empathie du personnage. Et avec Marie-Alexandre, du coup, vous avez partagé des très belles scènes toutes les deux, je trouve.
Oui, c'est vrai. En fait, c'est marrant parce qu'on a des caractères totalement opposés avec Marie-Alexandre. Et je trouve qu'elle fait très très bien son rôle. Je pense vraiment qu'en fait, mon personnage, il a vu en fait en Ellie une espèce de fragilité... quelque chose où je pense qu'elle a peur en fait de tout et Maddy elle a quand même une assurance, enfin elle est quand même très très sûre d'elle mine de rien et je pense que voilà elle s'est dit elle il faut que je la prenne sous mon aile parce que ce qui lui arrive c'est pas cool, sa sœur elle est pas cool avec elle alors qu'elle a aucune raison, enfin plein de choses comme ça quoi.
Alors il est vrai que la série doit mêler le chant, la danse, alors évidemment toutes les deux il faut des artistes qui soient un peu multifacettes hein, qui fassent un peu tout ça en même temps et c'est vrai que c'est difficile de passer un casting et d'être retenu dans ce genre de situation, mais quand on est retenu et qu'on sait faire un peu tout ça c'est chouette parce qu'il y a une grande authenticité dans cette série, c'est qu'il n'y a pas de playback derrière ou des gens qui vous doublent, c'est tout comme ça, prise en direct.
Ah bah ouais, c'est tout le monde, on chante, on danse, on joue, on fait tout et en vrai c'est un kiff, en fait ce qui est incroyable c'est qu'on est tous chanteurs, on est beaucoup de chanteurs en fait sur la série et en fait c'est trop cool parce qu'il y a une espèce de passion qui nous rassemble et qui fait que même le soir quand on est tous ensemble on se retrouve, on fait que chanter, sur le plateau on fait que chanter, enfin pour nous c'est génial et là je parle pour moi personnellement mais c'est vrai que genre j'ai commencé par la comédie musicale. Et ces derniers temps, j'ai fait pas mal de projets musicaux. J'ai fait Respire, j'ai fait Russ, qui sont toutes les deux des séries et des films musicaux. Et donc là, continuer dans cette lancée, pour moi, c'est un kiff. Et quand on m'a appelé pour faire le casting, j'ai même pas hésité une seule seconde, quoi. Pour moi, c'était une obligation de le passer.
Yara, pour toi, ton parcours juste avant ?
Moi, je trouve que du coup, cette série, comme on a parlé, c'est toujours sympa, on va dire, de voir qu'il nous voit pas que en tant qu'acteur, mais du coup, à être artiste multiple, où on chante, on danse. Moi, j'ai fait des comédies musicales. Juste avant, j'étais en comédie musicale à Rio, parce que du coup, je suis actrice au Brésil. Et tous mes projets ont été là-bas, que ça soit telenovelas, films pour Netflix ou comédie musicale. Et en fait, ça montre juste que quand on est un artiste et qu'on aime toute la partie cinéma, musique, danse, des projets comme ça, ça permet de montrer que on peut tout faire en même temps et que ça marche. Et moi je trouve que dans cette série là c'est ce qu'on essaye de montrer, en tout cas que pour ceux qui dansent, pour ceux qui chantent, il y a des The Voice, il y a des acteurs qui du coup n'étaient pas acteurs qui le sont aujourd'hui grâce à la série, montre la multiplicité d'un artiste.
Parce que c'est vrai qu'en France, je trouve que c'est pas encore hyper accepté le fait que des artistes puissent faire plusieurs choses. On est souvent mis dans des catégories et je trouve ça cool en fait de laisser place à ça. Et oui, en France, on a des artistes qui sont multidisciplinaires et ça, c'est trop bien quoi.
Ça marche bien, ça c'est sûr. Et en plus, vous allez avoir des belles visites parce qu'il y aura des guests aussi pendant cette première saison. En tout cas, il y a Vita qui va venir vous rendre visite. Il y a plein de monde. Et ça, c'est vraiment chouette. Et surtout, en plus, la particularité, c'est que vous avez des décors qui sont absolument magnifiques. Quand vous êtes arrivé sur ces décors-là, vous vous êtes dit quoi ?
Moi, c'était un waouh ! L'école, les studios, l'intérieur de l'école, les salles de danse. Franchement, moi, je me suis vraiment retrouvée à Undo Stress quand j'avais 13 ans et que je regardais cette série à l'époque. Et je me disais, waouh, l'école, les salles de danse, les salles de studio, de chant. Quand moi, personnellement, je suis arrivée dans le studio, ça m'a vraiment fait tilt tout de suite, quoi. Et de me dire que oui, bah, dans quelques semaines, je vais tourner une séquence de danse avec notre chorégraphe Ophélie dans ces studios-là. Donc, et La Ciotat, bien évidemment, qui est une ville très, très charmante où on est très heureux de tourner dans le studio Lumière.
Juste le Corcovado, quoi, là-bas.
Exactement. Mais bon, on a d'autres choses aussi. Franchement, Marseille et La Ciotat, on est bien servi.
Exactement. Pour toi, Charlie ?
Bah, moi, je me souviens, en fait, quand on est arrivé pendant les répètes, les studios étaient en construction. Donc, on est arrivé, il n'y avait que vraiment il n'y avait pas encore la peinture, il n'y avait pas encore les accessoires, il n'y avait rien. Et déjà, on était en mode, qu'est-ce que c'est ? Et quand on est arrivé et que vraiment on a vu que c'était fini.
On a l'impression de faire partie de la construction de quelque chose.
En vrai, oui. Quand on est arrivé, pareil, au HMC, rien n'était encore fait. Enfin, tout a été créé vraiment pour la série. Et c'est incroyable. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que les studios, c'est pas des studios séparés. C'est vraiment, on va dire que quand on rentre dans le studio à Marseille, c'est vraiment toute l'école. C'est-à-dire que la salle de danse est reliée au foyer, est reliée à la salle d'instruments. En fait, c'est vraiment, tu rentres dans les studios et ça y est, t'es dans l'école, en fait. Le seul truc qui change, c'est quand tu lèves la tête et que t'as 15 000 projecteurs et que t'as un plafond qui fait 15 mètres de haut, c'est le seul truc. Mais quand tu regardes en bas, franchement, t'as vraiment l'impression d'être dans une école.
Ou tu regardes par la fenêtre et du coup, tu vois les faux visuels. Mais oui, tout est relié. Toutes les salles de danse, toutes les salles de musique, les studios, même la salle des profs, le bureau de notre prudence. Enfin, tout est relié. Du coup, c'est vraiment, on s'y croit vraiment.
Bon, en tout cas, on est avec vous jusqu'au retour de la Star Academy. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil justement de jeunes artistes qui démarrent, qui sont un peu pluridisciplinaires comme vous, vous êtes, qui ont envie de jouer, qui ont envie de chanter, qui ont envie de faire plein de choses. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ?
Bah, de se faire confiance. Franchement, il faut croire en ses rêves. Il y a des beaux projets en France qui se font en ce moment et il faut passer des castings. Il faut pas avoir peur de se foirer. Il faut pas avoir peur d'avoir des refus. Nous, on passe des dizaines de castings et sur des dizaines de castings, des fois, on en a aucun. Et ça fait partie du jeu, mais il faut pas perdre espoir et il faut continuer à se former, continuer à travailler. Et voilà, toujours croire en ses rêves.
C'est beau. Yara.
C'est très beau ce qu'elle vient de dire. Franchement, c'est dur de. Mais en tout cas, non. Mais comme je vais rebondir sur ce qu'elle a dit, être soi-même, avoir confiance en soi. Et oui, on a beaucoup plus de non que de oui. Mais quand tu as le oui, tu peux dire que tu peux tout donner et tout ce que t'as appris durant toutes ces années, même si ça prend 10 ans, et bah tu pourras un jour te dire voilà, j'ai fait 10 ans d'études, ça fait 10 ans que je bosse, que je taffe, que j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Et bah là, ça paye et ça va forcément payer un jour si tu crois en toi.
Voilà, croyant en vous, c'est le mot de la fin. En tout cas, merci d'avoir été avec nous les filles. Tout pour la lumière, on continue à vous suivre évidemment du lundi au vendredi à 18h sur TF1. Les épisodes d'avance, il y en a 5 sur Netflix, 2 sur TF1+, pour ceux qui sont abonnés au Premium. Et bref, plein de belles aventures à vous suivre, en tout cas jusqu'à mi-octobre. Merci à toutes les deux.
Merci, regardez, suivez-nous et vous allez adorer.
Merci, et on est grave actifs sur les réseaux, donc vous pouvez nous suivre, on met plein de petits backstage et tout.
Je suis paumée, j'arrive pas à réfléchir. Ça m'aiderait de bosser avec Ali.
Te remettre à travailler avec lui en studio, tu vois, ça peut réveiller des choses.
Avec Ali, c'est juste professionnel.
Tu m'as dit que tu l'aimais encore quand tu l'as quitté.
C'était il y a longtemps. Toi, t'es mon mari.
T'avais pas rencard avec Julien ce midi, toi ?
J'avais un date. Je pense que ça ira pas plus loin.
Quand t'es amoureux de quelqu'un, c'est pas un sacrifice. T'es fidèle, quoi, tu vois.
Ah bah pour moi, si. J'ai besoin de me sentir libre. On se revoit demain.
Quoi ? Deuxième date ?
Papa, tu es ton frère. Tu peux pas traîner cette culpabilité toute ta vie.
Je suis désolée, mais ça me rend folle de pas savoir qui poste ces messages.
Qui aurait intérêt à dévoiler vos secrets de famille ?
Quelqu'un lié au studio aujourd'hui, qui était déjà là à l'époque.
Toi ?
T'as raison, moi.
T'étais aux premières loges, non ? Je peux voir ton téléphone ?
Allez, Fort Boyard est de retour. Vous le savez, cet été pour une nouvelle salve d'émission. Et il y en a une qui a bravé le fort et qu'on connaît bien, qui est une amie de l'émission. Si vous avez adoré Hortense dans Ici, tout commence, eh bien, vous allez la découvrir là, vraiment, Catherine Davinsenka affrontant le Fort Boyard. Bonjour Catherine, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Merci d'être là. Catherine, quelle est cette idée folle ? Est-ce que tu as hésité un instant ou tu t'es dit non, je veux y aller ? C'est un rêve.
Alors non, je crois que je me suis pas énormément posé de questions. J'ai trouvé la proposition fun et je me suis dit que j'allais y aller pour une asso, c'est cool. Voilà.
Quand tu étais petite, tu regardais l'émission ou pas?
Oui, oui, avec ma famille, on a déjà regardé. Après, on n'avait pas vraiment la télé à la maison, donc du coup, c'était pas quelque chose qui était ancré dans ce que j'avais regardé petite.
Alors, justement, dans ce tournage, comment ça s'est passé déjà? Est-ce qu'il a fait beau? Parce que c'est toujours la question qu'on se pose, parce que le tournage de Fort Boyard, il fait pas toujours très très beau.
Et il a fait les deux, en fait. Il a fait moche puis beau, donc on avait un peu de chance, ça va, c'était bien.
Bon, est-ce qu'il y avait des épreuves que tu redoutais?
Toutes. c'est un peu, enfin c'est compliqué en fait. Il y a des choses à faire. Enfin bon, entre les insectes, le vide, les trucs à sensations extrêmes et tout. Enfin tout fait un peu peur. Mais c'est un peu le but du jeu, de se dépasser, et de voir où est-ce qu'on peut aller chercher voilà des choses en nous pour
les affronter.
Oui, pour une cause qui nous tient à cœur aussi. Voilà.
Tu sais que souvent, on demande des phobies avant de participer à l'émission, et c'est pile poil là qui viennent titiller, hein, quand même. Hein. Faut le savoir, hein, c'est piégeant. Hein.
Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, on m'a pas vraiment demandé ce dont j'avais peur, mais je suis quand même tombée dessus, donc du coup.
Bon, bah voilà. Bon, ça a été quand même. Tu t'es pas blessée?
Non, je suis ressortie avec quelques bleus, mais rien de bien méchant.
Bon, en tout cas, tu garderas un bon souvenir quand même de cette participation?
Ouais, très 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 bon souvenir, vraiment.
Ici tout commence, c'est une page qui s'est tournée, puisque Hortense a fait ses adieux à l'Institut il y a maintenant quelques semaines, avec le départ et la maladie de Victorine aussi, ça a été un peu vraiment une grosse arche autour des sœurs Rochemont. C'est une page qui se tourne avec nostalgie, ou alors c'est plutôt aussi l'envie d'affronter l'avenir à pleines dents et de découvrir plein d'univers.
Oui, j'ai forcément envie de découvrir plein de nouvelles choses, donc... Il y a un petit pincement au cœur parce que ça fait partie de ma vie pendant 4 ans, mais voilà, c'est pour mieux revenir ailleurs et créer d'autres personnages, j'espère, et voilà.
T'as pris conscience de l'amour du public pour le personnage d'Hortense, et puis en même temps, pour toi, quelque part, tout ce que tu y as donné à Hortense?
Ah oui, oui, enfin, je pense que je me suis vraiment rendu compte au moment où justement on a vraiment annoncé mon départ et que j'ai reçu des milliers de messages, non, mais on arrête de regarder et tout. J'ai dit, non, c'est pas à peine d'être aussi extrême. Mais en fait, j'ai vraiment reçu énormément de messages de déception tellement profonde, et je me suis dit, ouais, mais, enfin, j'ai hâte, en fait, d'incarner un nouveau personnage pour ces personnes-là, justement, pour qu'elles puissent me retrouver aussi ailleurs. Donc, voilà.
Et puis rien n'est jamais figé dans les quotidiennes, on ne sait pas, peut-être que voilà, dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, peut-être qu'Hortense pourrait revenir de façon épisodique ou pour une arche événement, mais en tout cas rien n'est jamais fermé, c'est ça qui est bien aussi dans les quotidiennes, parce que ton personnage n'est pas mort quand même.
Dans les quotidiennes et puis dans le futur en règle générale, c'est une constante qui est malléable, donc on ne sait jamais ce dont il est fait.
Les projets, ma chère Hortense, est-ce qu'il y a des choses déjà que tu peux dévoiler? Est-ce qu'il y a des choses que tu as tournées déjà et qui vont être diffusées? Ou pour l'instant, tout est un petit peu en train de se construire?
Non, il y a rien dont je peux parler pour l'instant, en tout cas.
Bon, puis il y a un beau projet quand même aussi de vie, quand même, qui se prépare, avec des gîtes, des chambres d'hôtes aussi. C'est tout un projet de vie aussi, dont on a parlé avec Stéphane Blancafort. Mais ça aussi, c'est un joli projet, mine de rien, à mener.
Oui, c'est un joli projet qu'on est en train de construire ensemble, mais ça c'est pareil, je peux pas en dire énormément pour l'instant.
C'est en cours.
Oui, c'est en cours.
Bon, en tout cas, on vous souhaite plein de belles choses, ça c'est une certitude. Et puis j'espère qu'on se retrouvera vite pour de nouveaux projets. On a hâte de savoir ce que tu nous prépares. Il y avait aussi des projets avec Marie-Caise aussi. Vous aviez envie en tout cas de vous associer toutes les deux pour peut-être dans la production ou des choses un petit peu différentes aussi.
Oui, pareil, en fait, c'est des choses qui sont en cours là, c'est vraiment, je pense, une année de transition et de construction de projets. Donc pour l'instant, j'ai rien à annoncer en fait de particulier là-dessus non plus.
Bon, 2025 fait que là, ça avance tout doucement tout ça.
Voilà, exactement.
Bon, on se revoit l'année prochaine alors.
Oui, avec plus d'infos.
Bon, Catherine, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et on te retrouve dans Fort Boyard, évidemment, cet été, sur France 2, évidemment, samedi soir à 21h05. Merci beaucoup.
Merci, merci beaucoup.
Inédit sur France Télévisions.
Depuis des décennies, le fort résiste.
Allez!
À nous le fort!
C'est bien, Clarisse, hein? C'est très bien ce que tu fais.
Oh, allez, allez, vas-y.
Il est temps de revenir là où tout a commencé.
Ouais, c'est plus. Bien là, c'est bien là.
Ah, c'est bien ça.
Alors j'ai fait le gâteau moi-même.
Si je dois faire ça, je reste en prison, je vous le dis.
Oui. Oh là là.
Fort Boyard, les origines. Ici, renaît la légende.
Merci Père Forain pour ce rêve.
Fort Boyard ouvre sa nouvelle saison estivale, animée par Olivier Mine. Samedi prochain, dès 6h sur France.tv et à 21h10 sur France 2.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, pour la dernière de la saison, pour le 14 juillet, ça sera en feu d'artifice qu'on terminera avec Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Édouard Pluvieux pour le film Y'a pas de réseau et plein d'autres surprises qui vous attendent dans Chute, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.